Et la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous, Nathalie Lévy ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon. Et toutes vos réactions bien sûr au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Bonsoir à tous les trois messieurs.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio avec une actualité lourde hein, depuis ce matin. La disparition de 13 militaires français à la suite de cet accident d'hélicoptère au cours d'une opération de combat au Mali. Ils sont morts pour la France, a déclaré Emmanuel Macron. Charles Villeneuve, parce que vous connaissez particulièrement bien aussi hein, ces dossiers. L'Union nationale, quasiment toute la journée, hein, parce que 13 militaires, c'était pas arrivé depuis 36 ans.
À l'Assemblée nationale notamment aussi, tous les groupes politiques se sont exprimés de manière solidaire. Et je trouve que c'est assez normal parce que la mission en elle-même des 4500 soldats français, qui sont articulés avec 5000 soldats africains aussi, les fameux G5 Sahel, il ne faut pas l'oublier, notamment deux armées. Tout à l'heure, je vous entendais, Nathalie, poser la question
au colonel Barbry.
Au colonel Barbry, qui est un homme justement des hélicoptères de combat. Et vous lui demandiez si vraiment, par rapport à l'étendue considérable, puisque le Mali, c'est 2,5 fois la France, donc très vaste, est-ce que c'était suffisant? Est-ce que finalement... Alors, c'est vrai que les Mauritaniens et les Tchadiens sont de très bons soldats et aident très efficacement les Français, que les autres sont beaucoup plus faibles, beaucoup plus tendres et que ça pose des problèmes, il ne faut pas se le cacher. Mais c'est vrai que ces soldats, car cette force extérieure projetée dans le cadre de l'opération antiterroriste Barkhane, rassemble quasiment l'élite, grande partie de l'élite de l'armée française, qu'elle soit aéroportée, qu'elle soit héliportée ou qu'elle soit au sol, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir et se rappeler, c'est que tous ces hommes, ces soldats, sont là pour essayer d'empêcher les katibas islamistes venus du nord de s'emparer de 4 villes essentiellement, c'est-à-dire Bamako, bien sûr, la capitale dans le sud-ouest, mais aussi Mopti, Gao et Tombouctou. Et surtout Gao, c'est sur cette route d'ailleurs que l'opération de combat a eu lieu. Et vous posiez la question d'ailleurs au colonel aussi sur l'un des facteurs qui est aggravant de cette opération qui a coûté la vie à 13 soldats français, officiers, sous-officiers et hommes de troupe, c'est la nuit, la nuit africaine
absolument.
Qui est
la nuit sans lune, hein,
cette d'une
nuit,
valeur de 1 à 5, il vous l'a rappelé, mais aussi quelque chose dont il faut, et justement Marc De Fritsch qui a commandé les régiments hélicoptères de combat que je voyais au moment du déjeuner, m'expliquer que ça se passe comme dans un circuit de Formule 1. Ouais. C'est-à-dire que tous ces appareils sont au dixième de seconde près, entre 200 et 300 km/h. Donc la moindre petite erreur, surtout dans une nuit noire, provoque la catastrophe qu'on a vue.
Exactement. Gérard Carrérou, cet événement, il va générer un hommage national, peut-être en début de semaine, peut-être en fin de semaine. Là, ce soir, hommage en cours à l'Arc de Triomphe, quand nos hommes sont comme ça, victimes là d'un accident, hein, mais en zone de combat. Ce sont des héros, et il l'a rappelé, hein, Emmanuel Macron, ils sont morts pour la France. On loue nos héros. Hein.
Oui, je crois à juste titre, ce soir et les prochains jours, l'heure est à l'hommage d'une nation à ses soldats, ceux qui risquent tous les jours leur vie pour défendre les intérêts de cette nation. Et puis c'est aussi l'heure de la tristesse. Moi, je pense à ces familles, parce que ce sont des jeunes soldats, vieux guerriers de 60 ans ou de 50 ans. Hein. C'est des garçons qui avaient en moyenne 32 ans. Je dirais qu'il n'y a pas beau. Ouais. Dans les guerres napoléoniennes, il y avait des vieux guerriers. Maintenant, il y a des jeunes soldats. Et effectivement, je pense à leur famille et je pense même à leurs parents. Quand je pense par exemple à un homme que je connais bien, qui est l'ancien maire de Mulhouse, qui est le sénateur Bockel, qui a perdu son fils, le lieutenant Bockel. Bon, la tristesse de cet homme ce soir, je me mets un peu à sa place.
25 ans, pilote d'hélicoptère de combat.
Ça, c'est l'heure de... Mais après, il y a deux questions. Heureusement, je dirais, il y a tout de suite eu l'hypothèse est concrétisée et confirmée de l'accident. Ce n'est, parce qu'au tout début, on pouvait penser qu'après tout, un tir de Kalachnikov envoyé, ça aurait pu être terrible. Parce que je dirais que c'est la moindre des choses que ce soit un accident, parce que sinon ça voudrait dire la vulnérabilité
de nos hommes sur place.
Après, mais c'est pas encore le moment, ou c'est à peine le moment de commencer à se dire, est-ce qu'il faut être là et y rester? Moi, je n'hésiterai pas à dire, oui, il faut être là et y rester, parce que si on n'y est plus, à la seconde où on n'y est plus, et ça représente un bout de l'Afrique considérable, on dit la taille de l'Europe, ou la taille de trois fois la France, ou quatre fois la France, ça veut dire que les djihadistes, un immense État islamique, s'installera dans les... Et ça sera comme l'Afghanistan.
Merci beaucoup Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michael Darmon. Je vous interroge dans une seconde avec Serge, notre auditeur aussi qui est en ligne.
Et vous pouvez vous aussi interpeller les grandes voix. N'hésitez pas, c'est au 3921 que ça se passe et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir, jusqu'à 20h.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, avec comme chaque soir le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Michael Darmon. Et toutes vos réactions, bien sûr, sur Twitter, hashtag Europe 1 et au 3921, le standard.
Et on revient sur ce drame hein, au Mali, la mort de 13 de nos soldats lors de l'opération Barkhane. Michael Darmon, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Michael, on a vu hein, toutes ces réactions unanimes hein, très tôt après l'événement, jusqu'à quand même ce milieu d'après-midi à l'Assemblée nationale. Ou du côté de la France insoumise, on a posé la question, faut-il rester au Mali ?
Comme le dit Charles très justement, en fait la discussion elle a déjà commencé bien avant cette douloureuse journée, cette douloureuse opération. Ça s'est même d'ailleurs passé lors du Forum de la paix les 11 et 12 novembre à Paris, où en fait on a plutôt parlé de guerre, on a parlé de la guerre au Mali, et avec un message central partagé par tout le monde, tant par les présidents et les responsables africains et du G5 Sahel que par le président Macron, si le Sahel tombe, l'Occident cède. C'est évident. Donc, à partir de là, bien évidemment qu'il faut rester, mais il y a effectivement un processus de redéploiement de Barkhane, parce que les missions sont parfois mêlées. La journée, ils aident à construire les puits, les soldats, ils font une opération de police conjointe l'après-midi, et le soir, il faut aller faire la lutte contre les terroristes. Donc, il y a un redéploiement à faire pour repréciser les rôles. Ce sont les discussions qui ont lieu actuellement, avec un autre enjeu. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui voudraient parfois parler avec les groupes terroristes armés, notamment le rassemblement pour la victoire de l'islam au Mali? Certains disent qu'il faudrait parler avec eux, la France dit pas question. Il y a aussi ces enjeux-là, et cette période est charnière et cruciale, et malheureusement cet accident terrible, cette tragédie rééclaire à quel point ce qui se passe au Sahel, c'est fondamental.
Alors on va y revenir dans un instant avec ce qu'il peut se passer, effectivement ce qui est en train de se dessiner pour appuyer la force Barkhane. Serge d'abord est avec nous depuis les Hauts-de-Seine. Bonsoir Serge.
Bonsoir Nathalie et bonsoir à vos invités. Bien entendu, je ne connaissais pas ces militaires, mais je suis vraiment atterré. Si vous voulez, j'ai vraiment beaucoup de peine. On n'arrête pas de sacrifier des hommes. Il y a quelques mois, c'était deux jeunes commandos qu'on a fait tuer pour les soi-disant libérer des irresponsables dans une zone. Ce n'a pas de mots tellement que c'est affligeant. Si vous voulez, c'est terrible de sacrifier des hommes pour ça, parce que je pense qu'on n'a rien à faire là-bas. D'ailleurs, il n'y a que la France. Le problème du minerai d'uranium, on peut en trouver ailleurs. Hein, vous savez, bon, on n'a pas besoin. On sacrifie des hommes de grande valeur pour pas grand-chose, et je pense que les politiques sont quand même responsables. Et vous savez, moi, ça me fait mal au cœur. Hein, j'en pleure.
Vous en pleurez voilà. Ce soir. Merci de nous livrer votre émotion et votre questionnement, parce que Serge, il se questionne comme nombre de Français. On l'a vu à gauche de la gauche, notamment Charles Villeneuve. La question, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on peut redessiner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour appuyer la force Barkhane, pour essayer à la fois d'être toujours autant dans la protection et être moins seul?
Alors, on n'est pas tout seul. D'abord, on est tout seul opérationnellement avec les représentants militaires de 5 pays africains, 5 anciennes colonies d'ailleurs de l'Afrique occidentale française.
Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et le Tchad. Hein.
Mais c'est vrai que le maillon faible de tout le système, c'est le Mali. Aussi bien sur le plan militaire que sur le plan, je dirais, économique. Alors, il faut rappeler la mission, si vous voulez, et l'objectif de cette mission. Donc, les Katibas islamistes qui viennent du Nord pour s'emparer, si vous voulez, des nœuds routiers qu'est notamment d'ailleurs Gao et surtout Bamako, qui permet d'aller sur 3 autres pays africains, le Niger, le Burkina Faso jusqu'aux rives ouest de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez, on ne stoppe pas ces Katibas islamistes, on ne les freine pas, on ne les combat pas, la population qui est victime des exactions qui les rencontrent sur leur chemin vont, si vous voulez, émigrer. Et vous les retrouvez où? Vous les retrouvez aux mains, justement, de tous ces trafiquants. Parce qu'il ne faut pas oublier que les katibas islamistes, c'est aussi le trafic de drogue, le trafic d'armes et le trafic d'êtres humains. Et vous les retrouvez où? En Europe.
Ah oui. Bon, je comprends bien le débat. Il va y avoir, évidemment, dans les prochains jours, il va y avoir des gens qui vont nous dire « Mais il faut arrêter tout ça, il faut rapatrier tous ces 4500 soldats, etc. » Nous n'avons pas à jouer les gendarmes de l'Afrique. C'est ça qu'on va nous dire, c'est que certains vont dire. Les mêmes qui étaient bien contents qu'à une certaine époque, ce rôle-là soit tenu par les Américains.
Mais parce que oui, la solidarité européenne.
Non, alors, effectivement, comment faire pour que nous ne soyons pas tout seuls pour défendre un territoire qui soit aussi grand que l'Europe, quand aucun Européen, à part de quelques envois de matériel, ne met le pied sur ce continent africain.
Non, il faut arriver. Il y a quand même un peu.
Oui,
il y a quand même
un peu. J'exagère un petit peu,
oui,
mais bon.
Il y a quand même simplement rappeler les Allemands.
Très vite.
Il y a un contingent allemand, il y a du matériel allemand, mais il y a du combat.
Mais ils sont pas sur le terrain,
et pas aussi nombreux que nous, 4500.
Voilà. Il y a les Américains qui
sont pas au combat.
Alors juste, Gérard, terminé et puis
leur drone.
Non, ce que je dis, effectivement, c'est que si on n'arrive pas à impliquer les Européens. À ce moment-là, effectivement, à terme, on ne pourra pas. À un moment viendra où ça craquera, où on pourra... parce que l'opinion dira, il y en a marre d'avoir nos fils qui se fassent dégommer dans ces...
Se pose effectivement la question de la solidarité européenne, sur laquelle Michaël Darmon revient dans une petite seconde. Les Grandes Voix continuent, bien sûr.
Les Grandes Voix, c'est jusqu'à 19h sur Europe 1 dans votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. Et vous pouvez participer à ce débat, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous. Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Michaël Darmon. Et vous pouvez, comme chaque soir, participer à ce débat. Ça se passe au 39-21. C'est le standard d'Europe 1.
Au Mali, 13 soldats français tués avec cet accident d'hélicoptère épouvantable au cours d'une opération de combat sur place. Ils sont morts pour la France, a déclaré Emmanuel Macron. Les grandes voix, et on se posait la question aussi de la solidarité européenne avec la France dans la région. Michaël Darmon, elle est où cette solidarité?
Comme on l'a dit, c'est toujours la plus difficile à organiser. Mais il faut forcer de constater qu'elle continue à vouloir s'organiser. Sur 2020, il y a le projet, c'est une opération qu'on appelle l'opération Takuba, qui va mobiliser ou qui devrait mobiliser des forces spéciales européennes. Alors ça paraît comme ça très ambitieux, ça prend énormément de temps. Mais le constat est fait que ça. Emmanuel Macron on a beaucoup parlé lors du Forum pour la paix. Le constat est fait que la France ne peut pas rester seule opérationnelle avec des armées, certes
pour certaines variantes sur le terrain, mais d'autres mais sans qui, les Européens, voilà,
qui ont parfois plus de problèmes parce que les groupes armés terroristes avancent et convertissent les populations au sentiment anti-français. C'est pour ça que la question se pose sur est-ce que l'opération Barkhane, est-ce que ce qui se passe au Sahel va dans l'impasse? Parce que de plus en plus, ce sentiment anti-français est alimenté par les groupes armés terroristes qui avancent dans les pays, qui convertissent par la force les villages à l'anti-français.
Parce que c'est quand même une question de sécurité internationale, Gérard Carrérou. C'est une question de sécurité internationale et on voit, on l'a dit, répété, Charles Villeneuve en tête, le Tchad, la Mauritanie aux côtés des Français. Mais on a l'impression que l'Europe s'est désengagée, même si Michaël nous parle de ce plan. Mais...
Écoutez, c'est simple, je reviens à l'idée de l'État islamique. Il a fallu... On disait que ça allait être impossible, etc. On disait ça quand l'État islamique s'est installé et a commencé à perdurer pendant des mois, etc. On a vaincu l'État islamique que lorsqu'il y a eu une coalition qui a accepté d'intervenir, chacun avec ses possibilités, les Américains évidemment, avec leurs armes particulières.
Dont la colonne vertébrale était américaine.
Aujourd'hui, dans cette affaire-là, qui est aussi importante pour notre sécurité, à nous les Français, que l'affaire bien peut-être même plus importante, parce que qu'est-ce qui se passera s'ils gagnent, les islamistes? Il se passera que les populations vont descendre vers le sud, et qu'elles vont avoir qu'une idée, c'est de fuir vers la France, parce que ce sont des anciennes colonies françaises. N'oublions pas le facteur français, ce sont des anciens pays de colonisation française.
Oui, mais moi,
Charles,
c'est mon opinion, mon humble opinion, je crois que je ne suis pas le seul sur cette ligne. Il est impératif d'élaborer, si vous voulez, une stratégie progressive qui ne peut que reposer sur une opération de renforcement des États africains qui sont concernés au premier chef. C'est ça qui est très important. C'est qu'il y a quand même, on protège aussi des États corrompus. Et donc, bien évidemment, les katibas islamistes convainquent les populations en disant, voyez, ce sont les Français qui autorisent finalement ces hommes politiques, ces chefs, à continuer à être corrompus, etc. etc. Et donc, on devient, aux yeux d'une partie de la population, une nouvelle colonisation.
Ça, c'est une question très importante, parce que certains pays qui sont en mutation démocratique, je pense par exemple au Burkina Faso, qui prend des attentats de manière extrêmement frontale, extrêmement déstabilisante, eh bien, demande l'aide de la France, et ça vient difficilement. Alors que normalement, il devrait y avoir effectivement cette politique de renforcement d'État, parce que là encore, en novembre, l'appel du président du Niger, Mohamedou Issoufou, qui a dit « nos États peuvent tomber ». Il a raison, les États peuvent s'écrouler. Et à partir de là, ce qu'expliquait Gérard Carrérou, est un processus effectivement inéluctable.
Le maillon le plus faible aujourd'hui, c'est le Mali, Charles Villeneuve ?
Oui.
C'est lui, hein. C'est
avec véritablement.
Il ne faut pas oublier aussi les conditions de combat, les conditions de vie. Il faut savoir que c'est évidemment, d'abord, l'hydratation. Et vous savez que les soldats, je voyais par exemple le 2e REP qui était intervenu au début pour empêcher la prise de Tombouctou et surtout Bamako, ils portaient dans leur sac 11 litres d'eau à consommer par jour. Vous imaginez ce que c'est les conditions de combat, de crapahutage, etc. dans ces déserts.
Mais, alors, en admettant qu'on reste, et on va rester de toute évidence, les Français vont rester sur ce territoire, combien de temps ? Ça peut durer encore combien de temps ? Parce que 1983, dernière perte, ça c'était déjà il y a 36 ans. 2013, donc précisément avec l'opération Barkhane, cette fois, pour être exact.
Ça fait déjà presque 6 ans.
Voilà, donc ça peut durer indéfiniment.
Ça peut durer au moins 10 ans ou 15 ans.
Non, c'est pour ça qu'il faut, de toute façon, que l'Europe, notamment, que les Français... Parce que la France n'a pas tout à fait les moyens de pacifier l'Afrique à elle seule. Ça, c'est bien évident. Et pour autoriser, finalement, les entreprises chinoises, allemandes, de venir piquer des marchés économiques derrière les Français dans des pays finalement où la France a investi non seulement de l'argent mais surtout des hommes.
Michael, en 10 secondes.
Rapidement, c'est vrai que justement cette carence elle est palliée ces jours-ci par la Russie qui donne effectivement, ils vendent des armes aux États qui doivent se défendre.
Merci à toutes les trois, ces grandes voix qu'on a le plaisir de retrouver chaque soir dans ce studio. Évidemment sur ce drame sur lequel on va revenir tout à l'heure avec Alain Richard, invité dans ce studio. Merci à vous.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
À suivre, c'est l'info, c'est Sébastien Krebs qui nous propose le journal complet 19h. On revient sur cette émotion nationale après ce drame. Nous irons à Pau, précisément.
Et de vous écouter, Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir et c'est jusqu'à 20h.